Je dirais presque dans la continuité, mais sur un registre un peu plus communicatif peut-être. Je voulais moi reprendre l'intervention qui m'a un petit peu intéressé, Christian Laval, Bardot et Mood, et plus particulièrement la présentation de Pierre Bardot sur la notion de propriété individuelle. Parce que je pense que propriété individuelle, donc développée par Marx, je pense que c'est une entrée intéressante pour débattre de la question, en tout cas, qu'est-ce que penser à gauche. Car c'est une notion un petit peu qu'il a présentée, et à juste titre d'ailleurs, au carrefour de deux perspectives, hein, qui sont des perspectives qui, je me sens, devraient en tout cas interpeller la gauche. C'est une perspective utopique, hein, dans la mesure où la propriété individuelle se présente chez Marx comme un petit peu le point d'orgue du communisme. Et elle renvoie à une société dont les membres sont des hommes libres, hein, libres au sens propriétaire, maîtres de leur personne, hein, du fait, bien évidemment, que terre et moyens de production sont propriété commune, donc une liberté un petit peu située, hein, contextualisée. Et une perspective critique aussi, parce que cette notion de propriété individuelle, chez Marx, elle se présente un petit peu comme une notion alternative à la propriété avancée par Locke, souvenez-vous, et fondée chez lui sur le travail. C'était ça l'idée. Et Bardot, un petit peu, présente ces deux perspectives comme alternatives l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il rejette en plus la première, au nom d'une théologie, au nom d'une croyance désuète, dans un progressisme, disait-il, je crois que c'est Laval qui disait, un progressisme stérile et même parfois criminel, hein, et il rejetait la seconde, hein, c'est-à-dire cette perspective critique lockéenne, au motif que la notion d'individu sous-jacent un petit peu à cette propriété individuelle flirtait un peu trop avec l'individu complet, cet individu entrepreneur de lui-même, cette notion un petit peu ultralibérale qui aujourd'hui est dans l'air du temps. Et donc, en gros, il rejette les deux et il nous dit que finalement, chez Marx, il ne reste que cette idée de communisme comme fiction performative, hein, c'était ça son terme, je crois, une sorte de point focal, un petit peu, ou un aiguillon qui un petit peu qui touche à l'action politique, qui nous dit que l'action politique concrète ici et maintenant est la seule voie possible de l'émancipation. C'est un petit peu ça, voilà. Donc, rejet de la perspective utopique, rejet de la perspective critique, et installation un petit peu de l'action politique en acte, je dirais, comme voie possible, dans une perspective peut-être, je crois, il l'a dit, antilibérale. Alors moi je crois que dans cette présentation, Bardot est passé à côté de quelque chose, il me semble. Très bien pour dire qu'avec lui, la notion de propriété individuelle est présentée chez Marx comme consubstantielle, comme organiquement liée même à la société communiste. Mais il faut s'empresser d'ajouter que cette propriété individuelle, sans faire d'exégèse des textes de Marx, hein, est posée par Marx dans un rapport interne au travail. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Dans un rapport interne au travail lui-même, hein, c'est comme une négation en acte, pratique, politique, hein, de la propriété privée, au sens de Locke, comme sens capitaliste du terme. Hein. Et donc, on a chez Marx une propriété individuelle qui renvoie à une certaine conception du travail, qui est fondée sur une sorte d'appropriation libre et directe des activités et des produits, hein, directement dans l'espace même de la division du travail. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans le rapport interne au travail lui-même, s'organisent quelque part des processus d'échange, d'activation, de la subjectivité même, j'y reviendrai, hein, à l'intérieur même de l'espace de la division du travail. Et c'est, je crois, ça que la gauche n'a pas encore intégré et mis bien en place dans sa tête, je peux dire. Donc, en d'autres termes, je crois que pour Marx, la propriété individuelle, c'est simplement une articulation d'individus singuliers, hein, qui travaillent ensemble, en association, hein, et qui échangent directement le produit de leurs activités. Et donc, l'opposition de Marx à Locke, hein, est tout entière contenue dans cette différence de conception du travail qui porte en elle deux modèles de société. Le modèle de la société des producteurs associés, d'un côté, et de l'autre, le modèle de la société propriétaire, des propriétaires. Hein. On a deux modèles. Hein. Chez Locke, le travail prolonge la personnalité des individus et fonde la propriété privée, hein. Donc le travail en lui-même, je dirais, confère un droit naturel des individus sur eux-mêmes et sur la propriété des choses qu'ils possèdent, qu'ils ont produit par eux-mêmes, et le marché, bien évidemment, c'est le mode de reconnaissance et d'échange du travail, des activités et des produits, hein, de ce travail. Et chez Marx, le travail vivant, ne donne aucun droit de ce genre, hein. Il ne donne aucun droit de ce genre, aucun droit de propriété sur les choses elles-mêmes en tant que telles. Le travail fonde d'emblée la communauté des producteurs échangistes. Le travail est fondateur de cette communauté de producteurs échangistes. Il donne à chacun le statut de partie prenante des travaux collectifs et des produits réalisés dans le cadre de cette communauté. Donc, quelque part, on a une sorte de radicalité, de monde opposé. Chez Marx, le travail fonde la communauté des producteurs échangistes associés. Chez Locke, le travail fonde la communauté des marchands. C'est pas du tout la même chose. Ce sont deux ordres politiques complètement opposés. Chez Marx, quelque part, la propriété individuelle, c'est l'essence même de la société des producteurs associés, fondée sur la coopération et l'association. Chez Locke, on a une propriété privée qui porte en elle la société de propriétaires, fondée sur le droit naturel et le marché. Donc ce sont deux choses différentes, deux conceptions du travail qui renvoient à deux modèles de société qui s'opposent. Alors, qu'est-ce que penser à gauche, hein, par rapport à cette matrice de lecture, hein? C'est un petit peu ça qu'on peut réfléchir, hein? Moi, je pense que penser à gauche, c'est porter politiquement le modèle de la société des producteurs associés, hein? C'est promouvoir et le défendre intellectuellement, hein, contre le modèle de la société propriétaire, de Locke. Donc c'est quelque part... peut-être que là, il faudrait préciser ce qu'est penser contre, hein, face à, ou alors adossé à, hein, quelque part. Hein. Mais, d'un point de vue, je dirais, d'un engagement intellectuel qui est le mien, penser à gauche, c'est simplement tenir ensemble et l'utopie que porte le modèle de la société des producteurs associés, hein, et les déterminations théoriques, politiques, pratiques, hein, qui participent à son développement. Donc, d'ailleurs, au passage, ça implique une posture épistémologique assez singulière, hein, qui, je crois, est plus proche du pragmatisme radical à la Rorty, hein, que celle du retrait ou du scepticisme défendu par Bonneville, par exemple, à la Foucault. Alors, comment promouvoir et défendre intellectuellement ce modèle des producteurs associés? Je crois qu'une piste qu'on a un petit peu, nous, collectivement développée, ça a été de reprendre le fil rouge de la question du travail immatériel, hein, question ouverte par Tony, reprise, discutée par nombre d'entre nous, Carlo, Bernard Pauleret, moi-même et d'autres, hein, en avançant la notion de travail cognitif, l'essence au cœur de ce débat. Hein. Alors, j'en viens un petit peu à cette idée de qu'est-ce que le travail cognitif, au cœur même de ces modèles de société de producteurs associés. Bon, alors, j'irai un petit peu à la hache, je ferai des propositions de synthèse, simplement, j'avancerai quelques propositions choc, s'il faut en justifier ou l'argumenter, on peut revenir après. Hein. Mais le travail cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est pas une catégorie d'analyse extirpée de la sociologie du travail, hein, premier élément, hein, faut être clair là-dessus. C'est une problématique du travail concret, hein, là-dessus j'ai un désaccord avec Yann Boulier-Boutang, hein, et qui renvoie en première approximation, quelque part, à une capacité politique des individus à définir et organiser leurs propres actions, ou encore, si vous le voulez, à l'idée d'une libre détermination du sujet dans l'action. C'est un petit peu ça, c'est l'autonomie radicale, hein, qui est posé là, presque, je dirais. Deuxième thèse, deuxième proposition, c'est que le travail cognitif, c'est l'expression d'un rapport à soi, dont la subjectivité est la condition et le résultat. C'est-à-dire que quelque part, la subjectivité suit le procès de travail de bout en bout. Hein. Elle est portée par lui, individuellement ou collectivement, hein. Et en même temps que le travail s'en nourrit par les nouvelles déterminations qu'elle insuffle au niveau, par exemple, des modes d'engagement ou de coopération des travailleurs. Donc, quelque part, la subjectivité réalimente la puissance productive, la puissance sociale du travail dans une sorte de cercle, quand celui-ci, bien sûr, est historiquement ou matériellement développé. Donc, la subjectivité, c'est cette chose-là, mais je dis, la subjectivité, elle peut être bloquée dans son développement. Elle peut être bloquée si les conditions d'une réappropriation par le travail et de ses produits n'existent pas, par exemple. Hein. ça donne quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que qui fait rupture, comme disait Judith tout à l'heure. Avant, on était pauvre quand on n'avait pas de travail, hein, et aujourd'hui, le risque, c'est de s'appauvrir dans le travail, si la subjectivité ne fait pas retour. Il y a quand même quelque part une nouvelle, je dirais, un nouveau discours sur la pauvreté à tenir au regard même de ce qu'est le travail. Et donc, deuxième incidence, la subjectivité comme élément moteur de quelque part de la puissance productive, ça pose la question de l'habitat ou du milieu de vie dans lequel évoluent les travailleurs, bien évidemment. J'y reviendrai parce que ça touche à la métropole quelque part. Cette question de l'habitat ou des milieux de vie, bien évidemment, selon que c'est un habitat tellurien ou un habitat autrement, on verra, la subjectivité s'épanouit ou s'effrite ou se recroqueville. Troisième élément, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, c'est que le travail cognitif n'est pas un travail homogène. C'est que dans la mesure où le rapport à soi qui le fonde est toujours situé, contextualisé. C'est-à-dire que la subjectivité des travailleurs n'est pas indifférente au milieu de travail dans lequel elle trempe, quelque part. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça, j'ai retrouvé ça dans la parabole de l'abeille et l'architecte de Marx. Où l'abeille a le mode instinctif, l'architecte réfléchit. Et on voit à travers cette parabole, et si on croise d'ailleurs cette parabole avec les travaux en sociologie du travail, on voit des modes de subjectivation qui émergent. On voit par exemple, moi j'en ai distingué trois, il y en a peut-être plus, il y a le mode instinctif, celui de l'abeille, c'est le geste taylorien, la réactivité immédiate, le geste simple qui n'a pas besoin d'être appris. Il y a le mode réfléchi, c'est un petit peu, je dirais, le geste du technicien, ou quelque chose de ce genre, si on regarde les catégories sociales. Et il y a le mode réflexif, il y a le mode de la récursivité dans l'acte, même de réfléchir, qui fait qu'il a en principe une dynamique cumulative. C'est le geste peut-être du chercheur, ou peut-être du stratège, si vous voulez. Et bon, cette typologie-là, des modes de subjectivation, c'est... Elle a un intérêt, j'en ai trouvé un en tout cas, c'était de ne pas opposer le travail taylorien au travail de l'artisan ou au travail du knowledge worker. C'est selon une opposition classiste un petit peu entre travail de conception d'un côté et travail d'exécution. Les modes de subjectivation sont transversaux à cette classification et il me semble qu'elle permet de décliner par exemple la force de travail le long d'un continuum de situations d'action. Où le clivage fort, je dirais, c'est plutôt entre travail de routine et travail d'exploration. Celui qui a la capacité d'agencer représentation et réel dans un processus, répétitif, et celui qui a la capacité d'explorer, c'est-à-dire de remobiliser des choses pour l'acte lui-même de réfléchir. Donc quelque part, il y a une dynamique cumulative, et le clivage travail de routine et travail d'exploration me semble plus pertinent que le travail de clivage fortien, à mon sens, entre travail de conception et travail d'exécution. Bon, et l'intérêt de cette typologie, c'était aussi de considérer que dans un travail ou une activité donnée, pouvaient se combiner différents modes de subjectivation. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir pour un travail donné ou une activité donnée de l'instinctif, du réfléchi et du réflexif. Et que précisément, c'était une aberration de concevoir les politiques de formation, les politiques de travail, les politiques d'éducation. Maintenir les individus dans des savoirs spécialisés, dans des répertoires d'action figés, dans des domaines de disciplinaires complètement universitaires, excusez-moi. Mais donc, au motif d'ailleurs que la spécialisation donnerait un accès plus facile à l'emploi. C'est archi faux, enfin, c'est contre-intuitif, c'est au contraire. C'est en élargissant le spectre des situations de travail, des apprentissages par exemple, qu'on redéploie, on donne la capacité de redéploiement aux individus. Donc, quelque part, on redonne de la liberté. C'est un petit peu ça l'idée. Autre point, autre thèse que je voudrais vous soumettre, c'est que le travail cognitif dans sa forme concrète la plus épurée, quelque part, c'est quelque part une activité de résolution de problèmes. Et la productivité du travail cognitif, elle réside essentiellement dans la capacité d'agencer, de combiner, de juger, pour trouver ou inventer des solutions. C'est-à-dire que sous cet angle, la productivité du travail cognitif, c'est une productivité de la relation, fondée sur la qualité des agencements opérés, fondée sur les interactions des différents éléments du procès de travail. Et bien évidemment, la captation de ces gains de productivité, c'est par les capitaux productifs, si vous voulez, elle repose sur le contrôle de ces agencements. sur le contrôle de ces interactions. Et donc on voit bien que la question du contrôle dans cet axe-là, elle passe par le filtre du marché, bien sûr, mais pas seulement, ou pas seulement, elle peut passer par la loi, elle peut passer par les normes, elle peut passer par les règlements, c'est-à-dire par la puissance publique et les interventions de régulation, les institutions de régulation. Donc, et dernier point, le travail, c'est ma dernière sur le travail cognitif, donc, c'est que le travail cognitif est un travail métropolitain, par définition, par construction même. C'est un travail qui ne peut prendre racine que dans l'espace réticulé de la métropole, comme autrefois le travail ouvrier se déroulait dans l'espace sérialisé de l'usine. Alors, on a fait un séminaire là-dessus, mais simplement, c'est que, pourquoi cela? Parce que je crois que le travail cognitif fait de la circulation et de la mobilité le modus operandi du développement de la puissance de travail. Et quelque part, la métropole, c'est l'infrastructure adéquate, quelque part, au développement d'une division cognitive du travail et donc d'une subjectivité politique. En ce sens, quelque part, la conflictualité attachée au travail cognitif, elle sera métropolitaine ou elle ne sera pas. C'est un petit peu ça l'idée. Bon, conclusion, quelque part, pour terminer et conclure, qu'est-ce que penser à gauche après cet ensemble de considérations? Penser à gauche, c'est défendre la société, mais c'est une paraphrase de Foucault, je dirais, mais c'est plus précisément défendre la société des producteurs associés. Je crois que ce serait ça. Et donc, c'est défendre une certaine idée du travail en insistant sur le fait que le travail, c'est un rapport de libre détermination du sujet dans l'action, et que c'est cette liberté-là qui est la condition de l'égalité, quelque part, des individus associés. C'est-à-dire que la gauche, quelque part, doit s'emparer de la question des libertés au pluriel, lâcher celle de l'égalité. C'est-à-dire que la liberté est un préalable à l'égalité, quelque part dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle doit s'emparer des droits réels, des droits subjectifs, qui s'expriment, qui s'exercent, qui s'éprouvent dans le travail même. Et c'est-à-dire tous ces droits qui dans l'espace de la division du travail soutiennent des modes d'appropriation du réel qui sont épanouissants pour l'individu, qui développent des caractéristiques productives pour eux-mêmes, pour la société en général. Alors, je vois les critiques qui viennent, quel que c'est que ces délires, quelle cécité devant la réalité de l'exploitation, comment vous osez-vous dire aujourd'hui que le travail rend libre, ça c'est quelque chose, j'avais toute une série d'argumentaires à développer contre, mais il y a au moins deux choses que je voudrais dire, c'est un, si on passe sous silence la question de la liberté et des droits réels dans le travail, on se ferme de toute possibilité de penser la question de la démocratie comme vecteur d'émancipation, ça c'est un premier point. Et le deuxième élément, c'est que il faut que la gauche se mette en risque politiquement et intellectuellement. C'est-à-dire qu'elle doit s'inscrire dans des rapports politiques complètement impurs, qu'elle ne doit pas hésiter à expérimenter des directions de recherche qui conduisent à des impasses, qu'elle ne doit pas aussi se tromper pendant les soutiens de ces mouvements sociaux et politiques. Parce que cette prise de risque, c'est à mon sens le risque d'un nouveau rapport au monde, c'est un rapport multiple, qui, à mon avis, se construit dans l'expérimentation et bien ici dans le retour aux pratiques, et dans le retour aux luttes quelque part. Bon, et pour l'heure, bien sûr, je me contente d'espérer, c'est tout. Merci.